Parfois, nous avons l'impression qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme le dit l'Ecclésiaste, ce livre un peu curieux, un peu désabusé, qui a trouvé place dans la Bible, et c'est une excellente chose. Alors je voudrais vous lire ces premières paroles de l'Ecclésiaste, au chapitre 1, les 9 premiers versets. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera, allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, tournant encore. Ainsi va le vent qui reprend ses mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Vers le lieu où ils coulent, les fleuves continuent à couler. Toutes ces choses se fatiguent au-delà de ce que l'on peut dire. L'œil ne se rassasit pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourtant, il y a eu au moins deux immenses commencements dans l'histoire de l'univers. Le commencement de la création, cette lente évolution qui, peu à peu, transforme le chaos en une création merveilleuse. Bon, alors c'est certainement, il y a encore du travail à faire, mais il y a eu un commencement. Et le deuxième commencement, extraordinaire, ultime, bouleversant, eh bien c'est la venue du Christ. Et ces deux événements, ces deux nouveautés radicales sont comparées, sont mises en lumière dans l'Évangile de Noël. Alors je voudrais vous lire deux commencements de cette nouveauté radicale qu'il y a en Christ. D'abord, dans l'Évangile selon Luc, avec ce même récit que nous avons entendu dimanche dernier de l'Annonciation au chapitre 1 de l'Évangile selon saint Luc, à partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produirait-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car avec Dieu, tout est possible, selon sa parole. » Marie dit, « Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Autre récit de ce commencement qui a pris chair en Marie, dans l'Évangile selon saint Matthieu. Donc nous avons ces deux récits de la conception de Jésus, conception miraculeuse. Dans ces deux seuls évangiles de Matthieu et de Luc, les évangiles selon saint Marc et saint Jean ne parlent pas de cette conception miraculeuse, mais puisque c'est là-dessus que je voudrais méditer ce matin, sur cette nouveauté radicale que Dieu nous envoie, eh bien, je voudrais vous lire aussi ce récit dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 1. Alors désolé, ça commence par une généalogie qui est un petit peu difficile à lire et à entendre, mais c'est ainsi, et cela évoque aussi la lente cycle des générations qui semble interminable, mais dans lequel Dieu donne une nouveauté. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pérez et Zéra. Pérez engendra Hetsron, Hetsron engendra Aram. Aram engendra Aminabab, Aminabab engendra Nachon, Nachon engendra Salma, Salma engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Jotam, Jotam engendra Ahaz, Ahaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Yéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Yéconania engendra Shéatiel. Shéatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Ahim, Ahim engendra Eliud, Eliud engendra Éliazar, Éliazar engendra Matan, Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, fils de David, « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui, et il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel elle donna le nom de Jésus. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter pour célébrer cette merveille qu'est la nouveauté que Dieu nous donne, le cantique 108, « Émerveillons-nous ensemble », les trois premières strophes de ce cantique 108 dans « Louange et prière ». Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta vie. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir la nouveauté de ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi vraiment la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer, non seulement l'apprécier, mais en vivre, la mettre en pratique. Ouvre, Seigneur, par ton esprit, nos esprits et nos cœurs, à ta tendresse et à ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Matthieu et Luc nous parlent donc de cette conception miraculeuse de Jésus. L'évangile selon Marc n'en parle pas. Quant à Jean, il appelle Jésus le fils de Joseph. Et l'apôtre Paul nous dit que Jésus est né d'une femme comme nous tous. Nous avons donc la liberté, évidemment, de penser ce que nous voulons de l'éventuel miracle dans la conception de Jésus sur le plan historique. Mais sur le plan du sens théologique, il serait vraiment dommage de balayer d'un sarcasme cette tradition chrétienne d'une conception virginale de Jésus. De deux choses l'une, soit le fait est historique, matériel, physique, et ce n'est alors pas pour rien que Dieu s'est fatigué, si je puis dire, à faire ce miracle, qui n'était pas nécessaire pour que Jésus soit enfant de Dieu, puisqu'il l'est de mille autres façons. Mais c'est pour nous donner alors un signe du salut qu'il offre à tous. Et cela ressemblerait bien à Dieu de mettre ainsi dans l'histoire sa parole, de l'incarner dans une histoire qui révèle, qui donne du sens. Et si le fait n'est pas historique, nous avons alors ici, dans ce récit d'une conception miraculeuse, une des premières prédications chrétiennes sur l'évangile du Christ. Et il s'agit alors d'une image pour évoquer une réalité théologique et spirituelle qui nous concerne directement. Dans les deux cas, cette histoire de conception miraculeuse gagne à être prise vraiment au sérieux. Et effectivement, les récits de Noël sont très précieux. Ils nous montrent comment le salut de Dieu nous concerne, comment le Christ arrive dans notre propre existence, dans notre propre histoire, dans notre propre monde, à chacun d'entre nous. Alors regardons comment Matthieu nous présente la venue du Christ dans le monde. La première chose qui est remarquable, c'est qu'il ne commence pas son récit par la conception virginale, mais par une généalogie du Christ. Cela montre que cette réalité nouvelle qu'est le Christ, car oui, il y a vraiment du neuf en Jésus-Christ, cette réalité nouvelle n'apparaît pas à partir de rien comme un extraterrestre ou un ovni, une soucoupe volante, arriverait ici et se poserait devant l'oratoire. Mais cette réalité nouvelle qu'est le Christ est le fruit de l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine. Si l'on regarde les gens qui constituent cette généalogie, nous voyons qu'il y a de tout. Il y a le meilleur, il y a le moyen et il y a le pire, comme dans nos existences d'ailleurs. Il y a des hommes comme Abraham qui sont connus pour leur confiance incroyable en Dieu. Il y a aussi les rois descendants de Salomon qui étaient assez épouvantables, qui n'ont pas cessé d'oublier Dieu et de maltraiter leur peuple d'une façon terrible. Il y a des gens qui se sont plutôt bien comportés, mais il y a aussi de la prostitution, des adultères et même des incestes. C'est dans cette patte humaine, bien humaine, trop humaine sans doute aussi, que naît le Christ. Et cela montre d'abord, et c'est cela aussi l'Évangile, qu'aucune imperfection morale ou religieuse n'est un obstacle à la venue du Christ dans notre propre histoire. Et cela montre aussi que le Christ ne naît pas de la perfection humaine, mais que c'est un acte de Dieu pour sauver le pécheur que nous sommes tous. Notre propre histoire est faite aussi d'un mélange du meilleur et du pire, dans les générations qui nous ont précédés, et puis dans notre propre vie aussi. Alors sachons que rien de ce qui a pu arriver n'est un obstacle à l'amour de Dieu, ni à sa venue dans notre existence pour nous donner vie, pour nous donner le bonheur, pour nous donner d'être, à notre mesure, source de salut autour de nous. Alors cela ne veut pas dire que nous pouvons joyeusement continuer à faire n'importe quoi, au contraire. Cela signifie qu'avec Dieu, nous ne sommes pas prisonniers de notre passé et qu'enfin, nous allons pouvoir avancer avec Christ. Qu'enfin quelque chose de vraiment neuf, de vraiment vivant, de vraiment bon peut arriver dans notre vie. C'est la première chose que nous dit ce récit de Noël, et c'est déjà l'Évangile, c'est déjà la bonne nouvelle. La seconde chose que nous dit ce texte, à mon avis, c'est que même ce qu'il y a de meilleur en nous, de meilleur dans l'histoire humaine, ne suffit pas à sauver notre vie. En effet, la conception du Christ est de l'ordre de la surprise, est de l'ordre du miracle, est un acte de Dieu, quelque chose d'inattendu, quelque chose d'imprévisible et de miraculeux. L'Évangile nous montre que le Christ est à la fois le fruit de cette histoire humaine et une rupture avec celle-ci. C'est un des sens importants, je crois, de ce récit de la conception miraculeuse de Jésus. L'histoire humaine se répète, comme le remarque l'Ecclésiaste, et nous avons l'impression qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dans un sens, c'est vrai. Sans intervention extérieure, il n'y a aucune raison pour que naisse une dimension nouvelle qui nous élèverait au-dessus du niveau moyen de l'humanité ordinaire. Mais Dieu, nous dit l'Ecclésiaste, nous dit l'Évangile, et c'est un fait d'expérience. Dieu intervient dans l'histoire humaine pour créer un supplément d'être, pour donner quelque chose de divin dans notre existence. Il le fait par amour et en respectant notre histoire et notre liberté. Et c'est comme cela que le Christ est vraiment né dans l'histoire de l'humanité, il y a un peu plus de 2000 ans, au Moyen-Orient. Et là, oui, il y a eu quelque chose de vraiment nouveau sous le soleil. Et ce qui est vrai pour l'histoire est également vrai pour notre propre histoire, pour nous-mêmes. L'accomplissement de notre existence se fait quand notre dimension humaine est habitée, transformée, fécondée par une dimension divine. Ce qui est impossible à nos yeux, ce qui est impossible à nos seules forces humaines, est réalisé par Dieu en nous, et c'est effectivement le miracle. Alors il est difficile de parler de cette transformation avec les mots de la vie de tous les jours. C'est pourquoi Jésus utilise des images pour en parler. Il nous dit que nous pouvons devenir enfants de Dieu, que nous pouvons naître de nouveau, ou naître d'en haut, ou naître de l'Esprit de Dieu. Il utilise des paraboles pour parler du levain qui est mis dans la pâte, de la graine qui est semée dans le champ. Tout cela nous annonce que notre naissance, notre conception, notre engendrement doit faire partie de notre quotidien. Et que cette naissance est à l'image de celle du Christ, le Fils de Dieu par excellence, et que cette naissance, cette nouveauté dans notre existence, est quelque chose qui est de l'ordre du miracle, du surnaturel. Alors cette vie nouvelle ne peut naître dans notre existence qu'à l'exemple de la conception et de la naissance du Christ. Il faut que Dieu vienne féconder notre dimension humaine pour qu'il en naisse quelque chose de neuf, de bon et d'éternel. Notre dimension biologique est bonne, certes, mais elle est évidemment limitée en quantité et en qualité. Dieu arrive dans notre propre histoire comme une dimension extérieure qui nous féconde et qui permet de faire naître et grandir en nous un peu plus chaque jour une réalité qui dépasse le simple niveau biologique et psychique. Exactement comme dans cette histoire incroyable de l'Évangile selon Luc, quand l'Esprit de Dieu met de la vie dans le corps de Marie. Cette histoire incroyable est aujourd'hui pour nous une expérience que nous faisons. Et là, ce n'est plus simplement une pieuse légende pour amuser le monde. C'est une expérience, une réalité, celle d'un miracle de Dieu. Dieu vient féconder notre humble existence humaine, toute pécheresse, toute limitée soit-elle. Et cette vie que Dieu donne ainsi, ou plutôt cette qualité de vie qu'il nous donne, est la vie par excellence, la vie de celui qui est le créateur de l'univers, la seule source de nouveauté ultime dans le monde, cette vie qui a été manifestée en Christ, le Fils de Dieu. Il a pourtant été conçu et il a grandi dans un corps simplement humain, dans une histoire humaine. Et la piété chrétienne, à cet égard, ne s'est pas trompée en faisant de Marie l'image même du croyant. Pour prendre la mesure du sens de ces textes, il faut prendre bien sûr un peu de recul, car il y a peu de chances que la vocation que Dieu nous adresse soit de concevoir miraculeusement un bébé. Surtout à nous qui sommes humains du sexe masculin, qui sommes bien mal équipés pour ce genre de vocation. Mais, comme Marie, l'Esprit nous appelle certainement à donner naissance à une vie nouvelle, à une vie qui dépasse la matière et la mort, qui dépasse notre histoire passée et notre histoire présente. Alors ce n'est un secret pour personne, sauf peut-être pour les enfants qui sont à la garderie. La fécondité humaine nécessite deux réalités différentes, l'union d'un principe masculin et d'un principe féminin. S'il manque un des deux sexes, on a toutes les chances d'être stérile. Ici, pour que Jésus puisse prendre vie en Marie, le premier principe est humain en Marie et le deuxième principe est divin, nous disent les évangiles selon Luc et selon Matthieu. C'est cette interaction entre la réalité humaine et la réalité divine qui est à l'origine de la conception de cet être nouveau qu'est le Christ, qui est ainsi à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme. Eh bien, notre existence est du même ordre. Elle est également faite pour être fécondée par l'interaction permanente entre la dimension spirituelle qui vient de Dieu et nos dimensions humaines, nos dimensions biologiques, intellectuelles, sociales, artistiques ou matérielles qui viennent de l'homme. C'est de cette union que naît quelque chose qui est source de salut pour nous et pour ceux qui nous entourent, quelque chose qui porte la vie éternelle, quelque chose qui peut aimer, même unilatéralement, même nos ennemis, quelque chose qui peut espérer au-delà de tout espoir, quelque chose qui peut être d'une fidélité à toute épreuve, quelque chose qui vit et qui ressuscite, quelque chose qui est même source de nouveauté dans ce monde qui pourtant semble tourner en rond, quelque chose qui est source de créativité, source de vie nouvelle. Alors une vie qui ne s'intéresserait qu'à la dimension matérielle serait stérile. Cette vie purement terrestre chercherait à se sauver d'une manière touchante mais un peu ridicule, tentant d'oublier le vieillissement inexorable de notre corps, ou peut-être en se réfugiant dans l'activisme ou dans la possession matérielle, se donnant ainsi une illusoire impression de valeur personnelle, bien faible, bien limitée, bien temporaire. Cette attitude, elle est à la fois stérile et frustrante. Alors Dieu, bien sûr, ne punit pas de mort une telle existence complètement centrée sur le matériel, bien entendu. Dieu a plus de compassion encore face à une telle misère. Alors à l'autre extrême, les religions et les philosophies qui nient la véritable dignité du principe matériel de notre personne conduisent, à mon avis, également à une vie stérile, paradoxalement. Une vie mutilée, une vie qui se réfugie dans la contemplation pure, alors que le Christ nous appelle à vivre dans le monde, en aimant Dieu, certes, et de tout notre être, mais également en aimant notre prochain comme nous-mêmes, et donc d'avoir une foi qui s'engage, une foi qui fait ce qu'il y a à faire, une foi qui, très concrètement, se retrousse les manches et qui agit dans ce monde. Alors ici, ce n'est pas tellement le style de nous dire « voilà, faites ceci, faites cela », c'est à chacun de voir. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de règle absolue sur « voilà ce qu'il faudrait faire ou pas faire ». Mais toute la question est là, c'est que dans notre propre histoire, là où nous sommes avec notre personnalité, que nous nous laissions féconder par l'Esprit-Saint qui va nous dire alors, ou plutôt qui va nous donner la capacité d'inventer par nous-mêmes l'acte, la parole qui va transformer le monde et qui va faire avancer les choses. Marie est l'exemple même du croyant. Elle accepte de se laisser féconder par l'Esprit de Dieu en disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Alors cette image de la fécondation sexuelle pour parler de ce que Dieu nous apporte, cela peut sembler un peu trivial, et je m'en excuse, mais là encore, cela montre l'immense valeur de notre dimension animale, biologique, puisque la procréation physique est digne de servir d'image pour rendre compte du salut de Dieu, ce salut ultime qu'il nous donne en Christ. Cette façon d'évoquer le salut de Dieu se retrouve tout au long de la Bible, où il est souvent question de l'humanité qui est comparée à une femme qui doit coucher avec l'époux qu'est Dieu et se laisser féconder par lui. Alors on le voit dans les prophètes Ésaïe, on le voit dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, on le voit bien sûr dans ce livre qu'est le Cantique des Cantiques, ce poème amoureux, assez cru, qui a trouvé place dans la Bible. Et c'est le sens de l'Évangile quand le Christ nous invite à être comme des vierges sages qui se préparent à accueillir l'époux, ou quand il compare la parole de Dieu à une semence qui doit féconder notre existence. Alors cette image est un peu osée, alors au sens courant du terme, et aussi parce que, si je puis dire, grâce à un jeu de mots, c'est souvent dans le livre du prophète Osée que nous avons aussi cette parabole de l'amour de Dieu qui vient féconder notre existence humaine. Mais cette image, finalement, est une bien meilleure image de l'alliance de Dieu avec l'homme que celle que l'on retrouve ailleurs, de deux rois ou d'un roi avec son peuple. En effet, la relation de l'homme et de la femme dans le couple humain est normalement basée sur l'amour, sur un choix tout à fait subjectif de chacun des époux et qui fait que l'autre est absolument unique à ses yeux, au point même que les amis se disent « mais qu'est-ce qu'il lui trouve ?» Eh bien, c'est cet amour-là que Dieu a pour nous. Oui, qu'est-ce que Dieu nous trouve ? Eh bien, il est amoureux de la personne humaine, amoureux de chacun d'entre nous. C'est par amour que Dieu nous a ainsi choisis personnellement, individuellement. Et cette alliance du couple rappelle ainsi la grâce de ce Dieu qui nous aime en dépit de tout et qui nous reste fidèle pour toujours, souvent comme un amoureux transi, déçu, mais toujours aimant. Et nous le voyons dans ce récit de l'Annonciation, dans cet amour, chacun se fait par humilité le serviteur de l'autre. Nous le voyons dans ce récit de Luc où Dieu dit son amour à Marie et lui promet de l'accompagner où elle voudra aller, pour l'aider, pour la soutenir et pour lui donner la vie. Alors nous pouvons refuser l'amour de Dieu, mais nous pouvons aussi accepter, comme Marie, que notre existence soit fécondée par Dieu. Alors ce n'est évidemment pas un viol, et notre personnalité n'est pas du tout niée dans cette union avec Dieu. Comme un enfant tient à la fois des deux parents, ayant le nez de l'un, les yeux de l'autre, eh bien l'action de Dieu dans notre vie ne remplace pas notre personnalité, elle la féconde, elle lui apporte quelque chose de neuf. Et ce nous-mêmes qui naîtra de cette union avec Dieu est effectivement un être nouveau, mais c'est en même temps la chair de notre chair. Cet être nouveau que nous serons demain tient à la fois de nous-mêmes et il a reçu de Dieu quelque chose de vraiment neuf et quelque chose de formidablement bon, quelque chose que nous n'aurions jamais pu devenir par nous-mêmes. Et cela, c'est quelque chose qui est source de bonheur et de vie. C'est ce que nous dit l'Évangile selon Luc dans un récit un peu plus loin, au chapitre 11. Tandis que Jésus parlait, une femme éleva la voix dans la foule et lui dit avec admiration : « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. » Et Jésus répondit : « Heureux encore plus ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Ce bonheur, c'est le nôtre aujourd'hui et c'est la joie de Noël. Amen.